commencer avec vous.
On va commencer avec les dames aussi.
Voilà, je suis Denise Loukesso de la radio Okapi. Monsieur le secrétaire, monsieur le représentant spécial, vous avez annoncé dans votre introduction l'appui logistique de la MONUSCO FADC. Je voulais juste savoir de quoi s'agit-il concrètement de cet appui logistique. En termes concrets, il s'agit de quoi?
Non, je ne crois pas que je dis logistique. J'ai dit que nous avons des actions militaires ensemble et en coordination avec le FARDC. Le week-end dernier, j'étais à Goma, j'ai vu moi-même un des combats. Alors ce sont des hélicoptères attaque de la MONUSCO, ce sont des troupes au sol, c'est l'artillerie qui est involue en coordination avec le FARDC, mais la responsabilité et la première responsabilité est avec la FARDC et on fait tout ce qu'on a pour les soutenir.
Merci. Nous prenons une deuxième question de Goma.
Ok, vas-y.
Hello, my name is Stefan Hofstetter.
S'il vous plaît, la conférence de presse est en français, parce que nous sommes en direct sur la radio. Posez votre question en français.
Oui, je pose la question pour lui. Donc lui, c'est Stefan, il travaille avec Sunday Times, il est basé à Johannesburg. La première question, il veut connaître, il y a des rapports contradictoires sur les chiffres de militaires blessés sud-africains de la brigade d'intervention. Est-ce que vous pouvez confirmer les chiffres officiels des militaires sud-africains blessés? Pouvez-vous aussi donner le détail sur ces blessés? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était dans quelles circonstances qu'ils soient blessés? La deuxième question, avez-vous une information spécifique sur qui a lancé les bombes sur la ville de Goma et sur le Rwanda?
Merci. Madame, merci beaucoup.
Merci pour cette question. En ce qui concerne le blessé sud-africain, Félix, c'est un soldat sud-africain, je l'ai visité le week-end dernier dans notre hôpital à Goma. C'est légèrement blessé. C'est pas une grande chose. J'ai visité tous les blessés. J'étais aussi à l'hôpital militaire pour voir les blessés congolais, mais aussi nos blessés. Et j'ai vu ce soldat des Nations Unies aussi qui sont blessé, c'est un Sud-Africain, légèrement blessé.
Juste pour compléter à la suite du représentant spécial, nous avons enregistré 3 blessés, un blessé de nationalité sud-africaine et 2 autres de nationalité tanzanienne, dus aux éclats de tirs d'obus perpétrés par le M23. Mais leur situation est généralement stable.
Merci bien. Non, je dois encore répondre à la deuxième question qui est responsable des bombes. On avait... Alors, j'ai vu les cratères à Goma. Ils venaient du nord, hein, et ils ne venaient pas de la FARDC. Ce sont les positions à Kipati Hills, dans la colline de Kipati, et de là venaient les obus à Goma. Nous avons aussi, j'ai vu, une maison totalement détruite qui appartient à un de nos collègues internationaux à Goma. Alors, ils sont venus du nord. Merci.
Merci. Nous prenons une troisième question de Goma.
Merci beaucoup. C'est Norbert Mundulo pour la radio-télévision Graben. Certains pays commencent à évacuer leurs ressortissants à Goma. Je rappelle à la population qu'ils pourraient avoir quelque chose de pire. Ils vivent bien sûr avec peur au ventre. Quelle assurance vous garantissez et vous donnez à cette population-là?
Merci pour cette question. Moi, je ne suis pas totalement sûr si certains pays ont évacué leurs collègues du... leurs citoyens du Goma. Mais je vous dis que nous, comme Nations Unies, nous avons toutes les précautions afin d'assurer que de sécuriser nos collègues à Goma, parce que la situation n'est pas très, très difficile. Et si vous me demandez quelle assurance on peut donner de par des Nations Unies, quelle garantie, je vous dis... On ne peut pas garantir la sécurité. On ne peut pas garantir la sécurité de la population du Goma, ni du personnel des Nations Unies, mais on fait tout ce qu'on peut, conjointe, en coopération avec la FRDC pour protéger la population civile, parce que c'est la première priorité, c'est notre première tâche de, pas de garantir, mais d'améliorer la situation d'une population à Goma qui était torturée, et pour le futur, de prévenir que les tirs, les obus, les tirs des groupes armés pour attaquer les Goma. Mais on n'a pas une garantie, mais je vous dis que nous sommes très très fortes, nous sommes très très forts dans notre volonté d'assister, de soutenir le FRDC de combattre les groupes armés.
Nous revenons à Kinshasa, y aurait-il une dame encore ici à Kinshasa? Oui, avancez qu'on puisse vous voir s'il vous plaît. Oui, prenez le micro.
Élisée Odia, Congo Web. Juste deux questions. D'abord, où est-ce qu'on en est avec l'enquête pour déterminer qui a tiré sur la population de Nord Kivu, SDFRDC ou les forces onusiennes? Deuxième préoccupation, on comprend que la tension monte d'un cran à Goma, mais les discours de la MONUSCO demeurent le même. On a beau changer les représentants, mais c'est le même discours. On comprend que c'est les discours de Nations Unies. Vous demandez à la population à être patient, une patience qui dure depuis plus de 15 ans, en tout cas le temps que la MONUSCO est là. Mais est-ce qu'on peut avoir le timing? Quand est-ce que toute cette situation donnait quand même des assurances par rapport au timing? Quand est-ce que cette population peut enfin dire un ouf de soulagement par rapport à l'action de la MONUSCO?
Voilà, merci pour ces deux questions. La première question, j'ai déjà répondu sur les enquêtes. Nous avons immédiatement ouvert une enquête en coopération avec les autorités nationales. On n'a pas encore des résultats et ce n'est pas clair. La cause de la mort n'est pas claire et on attend les premiers résultats dans les prochains jours. En ce qui concerne votre deuxième question, aussi je comprends votre impatience, mais je ne crois pas que c'est le même discours maintenant. On a des mots, on a des actions. Peut-être les mots sont les mêmes, mais maintenant on a des actions. On a soutenu le FRDC dans leur combat contre le M23 au nord. Et avec des hélicoptères attaques, avec notre artillerie. Alors, je crois que c'est quelque chose de nouveau.
Oui. Pardon. Mon colonel.
Oui, juste pour un peu illustrer ce que Monsieur le représentant spécial vient de dire, car depuis le 22 août où les combats ont réellement démarré entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23, nous avons engagé tous les moyens et présentement, du 22 au 26, pendant cette période de dimanche à aujourd'hui, il y a eu une accalmie, mais au moment où je vous parle, depuis ce matin, à 7h50 du matin, la MONUSCO a engagé tous les hélicoptères d'attaque, ses moyens d'artillerie, y compris ceux de la brigade d'intervention et ceux de la brigade du Nord Kivu, pour justement appuyer l'offensive du M23 qui est actuellement en train de se mener sur les collines de Kibati et sur la colline des Trois Antennes.
Merci. Oui, allez-y. Où est le micro? Oui, passez le micro.
Oui,
allez-y.
Oui, monsieur Alain, Waikan pour le RTNC. Monsieur le représentant, vous étiez à Goma, vous avez vu la situation.
Où vous êtes?
Ah, ici. Oui. Vous étiez à Goma, vous avez vu la situation. Le M23 utilise la force qu'il a pour défier le gouvernement et la MONUSCO. Mais vous, vous avez maintenant la force. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi pousser le M23 avec la force que vous détenez, même pas pour le neutraliser, mais pour pousser le M23 à avoir quand même la solution politique que vous passez en utilisant quand même la force que vous avez. Parce que lui, il utilise ce qu'il a pour mettre pression. Deuxième question. Dans ce qu'on nous a remis ici comme papier, on a vu que vous avez l'expérience à résoudre les problèmes dans des zones de conflit. Qu'est-ce que vous avez amené politiquement dans votre agenda pour porter une solution sur le plan politique, parce que vous êtes réputé à avoir de telles expériences? Qu'est-ce que vous avez dans votre sac comme une politique claire pour proposer au gouvernement et aux autres pour trouver une solution? Merci.
Voilà, merci bien. Votre première question, c'est exactement, le porte-parole militaire l'a dit, c'est exactement ce qu'on fait. On travaille en coordination maintenant, on combat en coordination à l'instant, maintenant, à Goma avec le FARDC pour éviter une situation que le M23 est dans une situation de tirer sur des obus sur Goma. Et votre deuxième question, alors... Vous permettez de ne pas répondre clairement parce que nous travaillons politiquement aussi avec Mme Robinson, avec les autres envoyés spéciaux pour promouvoir le process de Kampala. C'était aussi le contenu de mes entretiens avec le chef de l'État hier, d'avancer dans les entretiens de Kampala. Mais nous avons quelque chose dans nos sacs, mais vous me permettez de ne vous montrer ce que nous avons dans notre sac.
Merci. Nous prenons Chine Nouvelle, au fond.
Une dame.
Une dame. Oh, s'il vous plaît. Ok, une dame et ensuite une nouvelle. Oui, madame. Patricia de B1.
Je suis Patricia Panzu de B1 Télévision. Monsieur le représentant, vous aviez dit que la brigade d'intervention ne va pas tout résoudre. Mais jusqu'où cette brigade peut-elle aller dans son renfort au 1-23?
Je passe au porte-parole militaire.
Oui, je pense qu'il est évident que cette brigade est venue pour neutraliser les groupes armés. L'impatience qui a été observée les temps derniers concernant l'entrée en action de cette brigade, je pense qu'aujourd'hui, cette brigade est entrée en action depuis 4 ou 5 jours et est en train d'appuyer les FARDC dans leurs différentes offensives et avec succès. Ça, je peux vous le garantir.
Nous prenons donc Chine Nouvelle.
Merci, c'est Steve Wemby pour l'agence Chine Nouvelle. J'ai deux petites préoccupation. La première, monsieur le SRG, depuis votre arrivée en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui explique la résistance de M23 contre les attaques de FARDC appuyées par la force de la MONUSCO? C'est ça la première question. Et la seconde, vous avez parlé de Mme Robinson qui, elle, d'après elle, elle préconise plus la solution politique. Vous, en arrivant en RDC, vous avez beaucoup déclaré dans des communiqués de vous engager dans des combats contre le M23. Est-ce que vous allez dialoguer, vous poussez le gouvernement à dialoguer avec le M23 et vous combattez le même M23? Est-ce que ce n'est pas faire un pléonasme vicieux? Merci.
Voilà, c'est pas mal d'expliquer la motivation de M23. Vous demandez le M23. Ils ont aussi un porte-parole, alors ils vous donnent la réponse. Ma réponse est très claire. C'est ce que j'ai dit. Il faut, et je comprends que le gouvernement de la République démocratique du Congo veut restituer l'autorité de l'État dans l'Est. Et nous soutenons le gouvernement, aussi le FARDC, dans ce but. Et votre deuxième question, c'était quoi? L'attaque politique, voilà. Nous avons aussi, je l'ai répondu déjà, alors je ne crois pas que ce conflit peut être qu'on a une solution militaire. Il faut un effort conjoint un effort conjoint entre la politique et les militaires. Je crois que c'est très important de promouvoir les entretiens de Kampala, mais ça n'exclut pas des actions militaires. Et Mme Robinson, qui, avec qui je suis en contact très très étroit, elle travaille beaucoup. Elle travaille beaucoup d'une manière quotidienne afin de vraiment promouvoir ce procès politique.
Je prends la dame qui est derrière.
Oui, merci. C'est Françoise Zaléa du journal La Pensée. Monsieur le représentant, selon vous, qui est derrière le M23 et le Rwanda pour rester impuni malgré tous ces crimes manifestes?
Voilà, permettez aussi de ne pas commenter sur ça. C'est à nous de désamorcer la situation. Et je voudrais aussi avoir un canal d'entretien avec Rwanda, c'est très important. Notre premier but est de désamorcer, de lutter, de combattre les M23, mais aussi comme la MINUSCO, d'avoir un contact avec le Rwanda. C'est pourquoi permettez-moi pas de ne commenter sur ça.
Merci. Nous repartons sur à Goma. Goma, on peut prendre une question. S'il vous plaît, vous pouvez fermer vos téléphones ou les mettre sur silencieux. Goma.
Merci, c'est Aline Engue de Top Congo FM. Monsieur le représentant, le festival Amani, qui est soutenu par la MONUSCO, qui devrait normalement se produire ce week-end, vient d'être reporté pour des raisons de sécurité. N'est-ce pas là une preuve de manque de confiance de la zone de sécurité? Merci.
Voilà, alors je voulais aller à Goma le vendredi et le samedi pour attendre le festival Amani, mais maintenant on m'a dit alors ça ne prendra place parce que la situation sécuritaire. Et ça prouve que c'est très très important de résoudre la situation sécuritaire dans la région, au Goma, de protéger les civils, parce que ce sont des gens, la population de Goma, qui veulent vivre en paix et qui veulent avoir un festival de la paix comme c'était planifié avec le festival Amani. C'est très dommage que dans ces circonstances ça ne peut prendre place. C'est pourquoi nous travaillons avec vous, avec le FRDC, afin d'améliorer aussi la situation sécuritaire à Goma et aux environnements.
Nous prenons encore une autre question de Goma.
Merci, c'est Thierry Bishop Fundu pour les comptes de la radio Télékin Malebo. Ma préoccupation, c'est pour M. Martin Kobler. Monsieur, les forces de sécurité ont fait état aujourd'hui d'un niveau d'alerte assez élevé dans la ville de Goma. Qu'en est-il principalement et quelles sont les stratégies adoptées par la MONUSCO pour parer à toute éventualité? Qu'en est-il aussi de la prise en charge des morts et des blessés à la suite des manifestations des Gomatraciens à la suite des bombes et des tirs provoqués que la MONUSCO est soupçonnée d'avoir occasionné auprès de la population en attendant les résultats de l'enquête?
Voilà, j'ai déjà répondu à la question des manifestations et nous avons lancé une enquête immédiatement après la mort des deux manifestants. Non, la cause de ces morts ne s'est pas... C'est pas clair et on fait ces investigations, ces enquêtes en coopération avec avec les autorités nationales.
Oui. Donc concernant votre deuxième préoccupation qui est relative au niveau d'alerte aujourd'hui à Goma, il est évident que les combats se poursuivent à quelques kilomètres de Goma. Il est normal que ce niveau d'alerte soit élevé et que toutes les mesures soient prises pour renforcer la sécurité dans la zone de protection que nous avons nous-mêmes établie. Et à ce titre, nous continuons à renforcer nos patrouilles, à multiplier nos unités, la mobilité de nos unités de réaction réaction rapide afin de pouvoir tenir la situation sécuritaire sous un contrôle et apporter aux populations la sécurité optimale qu'elles attendent de nous.
Nous prenons une dernière question de Kinshasa avec la dame tout à fait au fond.
Maria pour Télé 7, ma question s'adresse au représentant spécial du secrétaire général. Et mon souci est de savoir quel est le bilan que vous faites après cette première visite en République démocratique du Congo. Le bilan est-il positif ou négatif?
Voilà. Alors, laisse-moi dire que quand le secrétaire général m'a demandé de venir ici comme son représentant général aux Républiques démocratiques du Congo, j'ai dit immédiatement oui, sans demander ma femme. Parce que, alors c'est une tâche qui m'intéresse beaucoup. C'est une tâche qui m'intéresse parce que la protection de la population civile, d'avancer le développement économique ici, de travailler avec tous les collègues ici, dans le sein des droits de l'homme, les child protection, la protection des enfants, mais aussi au sein politique. Alors c'est quelque chose que je voulais faire. C'est pourquoi je vous ai proposé ce concept de triple partenariat. Ce partenariat avec le peuple, parce que c'est le peuple que nous servons. Nous sommes ici pour servir le peuple congolais. Le deuxième, le partenariat avec le gouvernement. Et je suis très optimiste après mes premières rencontres avec le gouvernement. Et le troisième, c'est le partenariat avec la communauté internationale. Je dois vous dire une chose. Le partenariat avec le gouvernement, ça inclut aussi des tâche assez difficile de restaurer l'autorité de l'État. Et la première priorité maintenant sur mon agenda, c'est la réforme des sécurités, des services de sécurité. Je crois que c'est très très important de réformer le FRDC, les forces armées, les réformes de sécurité, parce qu'on ne peut pas restituer l'autorité de l'État et créer une stabilité avec des parts d'une armée qui ne peuvent pas le faire. Il faut réformer les structures. Et c'est une première tâche. Je crois que c'est très, très important. Créer la stabilité, créer la sécurité, ça nécessite une police, ça nécessite une armée qui peut le faire. C'est une des challenges, comment est-ce qu'on dit, des tâches les plus importantes. Aussi au sein économique, d'éliminer la corruption. Alors, vous êtes un pays riche. C'est pourquoi je suis optimiste à long terme. C'est un pays très, très riche aux ressources minérales. Mais la richesse n'atteint pas la population. Et ce sont des sujets que nous allons travailler. Mais je suis très, très heureux d'être ici et de coopérer avec le gouvernement, mais le peuple aussi, pour avancer les choses et avancer les sujets que j'ai justement mentionnés.
Merci, monsieur le représentant spécial, d'avoir fait ce déplacement. Comme l'a dit le représentant spécial, ce n'est qu'une première rencontre. D'autres rencontres seront prévues, soit collectivement, soit individuellement. Au nom de tous les collègues journalistes qui sont ici dans la salle, je voudrais vous remercier, monsieur le représentant, d'avoir pris un peu de votre temps. Nous savons que vous avez un emploi de temps très chargé. Merci encore d'avoir fait le déplacement pour être avec nous cet après-midi. Merci beaucoup.
Merci bien à vous tous et comme j'ai dit au début, je voudrais bien avoir individuellement, collectivement, des relations très très étroites parce que c'est à vous d'observer, c'est à vous d'accompagner et aussi de critiquer la MONUSCO. Et ça n'empêche pas des relations très très étroites avec la presse parce que je suis convaincu que c'est vous les membres du corps de la presse qui aussi peuvent contribuer à avancer la situation ici en RDC. Merci bien.
Nous continuons notre conférence de presse de ce jour. Comme annoncé, nous avons avec nous dans la salle Mme Flavia Pianceri, qui est la haut-commissaire adjointe des droits de l'homme. Elle termine à Kinshasa une visite d'une semaine. Elle était à Goma, Kichanga, Mambasa, Bunia et maintenant ici à Kinshasa. Elle a tenu à vous rencontrer avant de quitter la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je lui passe la parole. Bonjour madame.
Bonjour, bonjour à vous les collègues de la presse. Merci d'être ici. C'est un plaisir, c'est un honneur en effet pour moi de participer à la conférence hebdomadaire de presse que de la MONUSCO, de même que de l'équipe pays des Nations Unies. Merci pour cette opportunité. Je viens de prendre service au bureau de la haute commissaire des droits de l'homme basée en Suisse à Genève il y a seulement quelques mois, et ma première visite officielle sur le terrain a été le Congo. C'était une décision très consciente, très intentionnelle, et ça en partie bien sûr en raison de la situation qui est difficile pour les droits humains ici dans le pays, mais aussi avec le but de rappeler l'engagement de mon organisation à coopérer avec les autorités, avec le peuple congolais, et relever les défis qui existent encore toujours dans ce domaine. Cette mission, qui, comme vous venez de le dire, m'a amenée dans l'Est, m'a permis de mieux évaluer la situation des droits de l'homme et la complexité des défis qui sont liés à la protection des civils. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs partenaires, membres du gouvernement au niveau national et provincial de la RDC, aux responsables des forces de défense, de sécurité, le système judiciaire, du même que le Parlement, les représentants de la société civile, la leadership de la MONUSCO et l'équipe de pays de Nations Unies, divers acteurs humanitaires et surtout, la chose peut-être la plus importante, avec des victimes du conflit à l'Est. Ma visite, par hasard, est intervenue à un moment vraiment crucial dans la mobilisation des efforts en vue d'un retour à une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis très préoccupée par la poursuite des combats autour de la ville de Goma, que j'ai pu directement connaître moi-même, parce qu'ils ont entraîné des pertes de vies humaines, non seulement parmi les civils, partout, et chaque perte de vie humaine est quelque chose à regretter. Mais quand on frappe les civils, je dois rappeler qu'il s'agit là d'un acte qui constitue une violation du droit international humanitaire. Et c'est quelque chose absolument inacceptable. Lors de ma visite, j'étais frappée par plusieurs choses, mais une des choses qui m'a vraiment fait une très forte impression, c'est la situation des populations au nord Kivu et l'Ituri. Au cours de mes déplacements, j'ai parlé avec plusieurs habitants de ces régions et ils m'ont parlé de leur vulnérabilité, de leur situation si socio-économique qui est si précaire à cause du conflit. Ils ont parlé des contraintes sécuritaires liées à l'activité des groupes armés qui agissent dans leurs environs. J'ai pu même observer les conséquences néfastes, en effet, de la présence très limitée des institutions étatiques. Il faut que l'État soit présent pour pouvoir maintenir la paix. Et le fait que la situation des conflits a aussi fragilisé les structures coutumières traditionnelles qui auparavant étaient à même de gérer les différences d'opinion, les conflits locaux, et qui eux-mêmes contribuaient au maintien de la paix, mais qui maintenant se trouvent très marginalisées. À Kichanga, par exemple, dans le territoire de Mbisi, les représentants de la population locale ont parlé de l'impact dévastateur que les activités des groupes armés ont sur leur communauté. Et en particulier, les déplacements de la population qui causent les viols massifs, qu'il y a les exécutions sommaires, les dénouements consécutifs au fait qu'on s'accapare les terres et les ressources naturelles qui sont là pour le pays, pour sa population, non pas pour les groupes armés. Et il y a des ressources qui pourraient vraiment donner un élan au développement économique de la région. Et je voudrais souligner que la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels pour toutes les communautés du pays reste en effet demeure un impératif auquel doivent s'atteler sans délai les autorités congolaises avec le soutien de nous tous de la communauté internationale. Quand j'étais à Ituri, j'ai été frappée par l'ampleur des violences sexuelles qui ont été commises principalement par les groupes armés, mais parfois aussi par les forces de défense et de sécurité, de même que par des civils. La perpétuation de telles violences exige une lutte acharnée contre l'impunité. Et à cet égard, je voudrais reconnaître les efforts déployés par le gouvernement congolais pour lutter contre l'impunité relative aux violences sexuelles. Je voudrais néanmoins rappeler aussi qu'il y a de nombreuses victimes, trop nombreuses, qui attendent toujours que justice leur soit rendue, notamment pour des cas de viol de Walikale, Bouchani dans les territoires de Masisi et Minowa dans les territoires de Kalehe. Ce sont des cas qu'il faut vraiment mener à conclusion pour que justice soit faite. Les Nations Unies continuent de soutenir le gouvernement pour apporter une réponse rapide et adaptée aux victimes de ces violences. Laissez-moi parler un peu de la situation pénitentiaire qui, franchement, est déplorable et constitue un autre sujet majeur de préoccupation. J'ai visité la prison de Bounia, une prison qui est prévue pour 220 prisonniers et où il y en avait presque 1200. Donc, l'espace était vraiment très limité, ne pouvait pas accueillir d'une manière adéquate tel nombre de personnes. Et je voudrais donc encourager les responsables au niveau national, de même que provincial, à redoubler les efforts pour améliorer les conditions dans les lieux de détention, surtout en ce qui concerne la réduction des trop nombreux cas de détention préventive, parfois très prolongée, et la prévention des cas de décès dont il y en a malheureusement trop. On peut comprendre que dans des conditions tellement coincées, l'hygiène, la santé posent vraiment des problèmes. Je dois dire en même temps, et il faut toujours se rappeler qu'il y a des aspects positifs à souligner, je tiens à faire ça, que les mesures prises par le ministère de la Justice et Droits de l'Homme pour améliorer la situation dans les prisons m'ont beaucoup encouragée. Et je veux assurer le ministère, le ministre elle-même, que notre bureau va continuer à donner tous les soutiens possibles dans le développement de son projet qui vise à une réforme globale du système pénitentiaire. Les droits de l'homme s'appliquent aussi dans ce contexte-là. Donc nous, on reste comme bureau engagé pour que la réforme du système puisse se réaliser dans les plus courts délais. Je dois souligner aussi qu'on reste préoccupé par la protection des défenseurs des droits humains, des journalistes, de tous les acteurs politiques et j'appelle les autorités congolaises ainsi que la société civile avec qui on travaille très étroitement à lutter ensemble pour le respect de tous les droits, y compris la liberté d'expression de tous. J'espère que la détermination à améliorer la situation des droits de l'homme, dont ont fait preuve mes interlocuteurs lors de mes rencontres dans l'Est, même qu'ici à Kinshasa, rencontres que, comme je venais de le dire, ont été lieu avec le gouvernement, le Parlement, les autorités judiciaires, dans les trois piliers du pouvoir démocratique dans un pays, de même que les forces de défense, de sécurité, va se conduire concrètement par une plus grande protection et plus grand respect pour les droits des femmes, des hommes, de tout le monde dans ces pays. À cet égard, je voudrais souligner qu'il y a plusieurs projets de loi en cours d'élaboration ou d'examen qui visent à promouvoir la protection des droits humains. Parmi eux, il y a la loi pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, la promulgation récente d'une loi établissant une commission nationale des droits de l'homme est elle aussi une preuve de l'engagement de l'État congolais pour renforcer le système national de protection et de promotion des droits de l'homme. J'encourage donc les autorités concernées à rendre cette commission opérative dans les plus courts délais possibles. Ces efforts dont je viens de parler devront être étendus aussi au processus de sélection, ce qu'on appelle le vetting, exigé par la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU pour la formation d'une nouvelle force de réaction rapide au sein des forces armées de la RDC, qui, j'espère, va être un élément clé d'une réforme plus large du secteur entier de la sécurité. Cette réforme est indispensable pour une lutte efficace contre l'impunité et je voudrais encourager le gouvernement congolais à poursuivre dans ses efforts en ce sens. Je voudrais réitérer aussi la disponibilité de mon organisation à lui fournir tout appui dont ils ont besoin. Finalement, avant de conclure, je voudrais remercier et féliciter la MONUSCO, de même que l'équipe pays des Nations Unies, pour leurs efforts en visant un changement et une solution des difficultés du pays. Nous sommes porteurs de l'appui de la communauté internationale aux efforts des Congolais. La chose la plus importante à se rappeler, c'est toujours que premièrement, ce sont et doivent être les efforts des Congolais eux-mêmes pour une stabilisation durable dans le pays. Une telle stabilisation ne peut passer que par la promotion et la protection des droits de l'homme. Merci.
Merci beaucoup. Merci, madame. Vous êtes disponible pour des questions?
Bien sûr.
Madame va prendre quelques questions. Nous avons ouvert donc les questions. Première question.
Merci, c'est Carlos Simopili pour la CSRP. Madame, vous avez les soucis pour l'application des droits de l'homme. Maintenant, dans la configuration actuelle de notre pays, les criminels de guerre sont primés sous les labels des solutions politiques. Ce qui est en diachronie avec votre voix de poursuivre les violeurs du droit de l'homme. Qu'est-ce que vous dites concernant ce problème?
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est important de lutter contre l'impunité au cas où il s'agit de graves violations des droits de l'homme. Parce que c'est même le fait de voir qu'il y a impunité qui pose les bases pour une continuation d'un conflit. Donc le respect des droits de l'homme est un élément essentiel pour une paix durable.
Oui,
ma nouvelle, oui, je peux. Je voudrais compléter la question en disant qu'à cet égard, la MONUSCO a officiellement écrit aux autorités de la RDC pour leur dire que dans le cadre même
des pourparlers politiques, la MONUSCO ne cautionnera aucune intégration d'éléments connus pour des violations de droits de l'homme dans les FARDC. Merci.
Monsieur Omba.
Oui, Albert Omba, Numérica TV. Madame, vous venez de faire une tournée à l'Est. Le Bureau des droits de l'homme aussi a publié beaucoup de rapports. Et pour que tous ces violeurs du droit de l'homme puissent comprendre que les Nations Unies sont fortes et luttent contre eux, est-ce que vous n'avez pas prévu un processus qui va transmettre tous ces gens aux instances judiciaires internationales? Je prends le cas de l'Ituri, où les Nations Unies, avec tout ce qu'ils ont fait comme travail, a abouti aux quelques dossiers qui sont arrivés à la CPI. Est-ce qu'on ne peut pas avoir le même processus pour tout ce qui est comme violation des droits de l'homme à l'Est actuellement?
Il est important, comme je disais, de s'assurer que justice est faite. Mais il est important aussi, dans la mesure du possible et au maximum, que justice soit faite au Congo, parce que c'est ici que l'autorité de l'État doit être rétablie et qu'il est important donc qu'on puisse prendre charge de la part des autorités de l'État, du système de justice, de la lutte à l'impunité. Il y a bien sûr des cas où on se réfère à des instances externes, mais je crois que l'aspect le plus important, c'est que les autorités congolaises elles-mêmes se fassent charge de la lutte à l'impunité et de la protection et promotion des droits humains.
Oui, juste à côté.
Merci. Moi, c'est Flavien Msens pour la Coin des Planètes Région. Madame, il y a quelques semaines, les femmes du Sud et Nord Kivu, Goma en général, ont déposé une pétition auprès de la communauté internationale et à la MONUSCO pour l'installation des instances internationales pour juger les auteurs du viol. Quelle analyse vous faites suite à cette pétition? Deuxième préoccupation, il y a 3 semaines, un défenseur des droits de l'homme a été tué à Pweto, dans la province du Katanga. Plus loin là-bas, le procès de Chebeya est au point mort. Quelles sont les recommandations que vous avez formulées auprès du gouvernement et à la communauté internationale? Merci.
En ce qui concerne la pétition, ce que je voudrais vous dire, c'est que, comme je viens de le dire auparavant, il faut quand même avant tout essayer tout ce qui est possible au niveau national. Ce sont les autorités du pays qui sont porteurs d'une responsabilité envers la population. Mais nous, la MONUSCO est là, notre bureau est là. On est là pour appuyer les efforts des autorités congolaises pour pouvoir répondre à l'attente très légitime de justice de la part des femmes, de la part de tout le monde en ce qui concerne ça, pour que leurs droits soient respectés. Et notre action est visée à permettre de pouvoir adresser le problème au niveau national en première instance. En ce qui concerne les assassinats des défenseurs des droits de l'homme, bah, évidemment, il faut établir le contexte. Je ne suis pas tout à fait au courant de tous les détails de ce cas spécifique dont vous venez de me parler, mais en général, et c'est ce qu'on vient de me présenter dans plusieurs rencontres, il y a une préoccupation de la part des défenseurs de droits à cause d'une perçue vulnérabilité. C'est pour cela qu'il est vraiment important que la loi qui a été présentée pour leur protection puisse être mise en place le plus tôt possible.
Merci. Une autre question? Oui, la dame au fond.
Merci, c'est Mathilde Moussaou pour le compte du journal Forum des As. Je veux savoir qu'est-ce que... Je m'adresse à la haut-commissaire aux droits de l'homme. Je veux savoir qu'est-ce que vous feriez des doléances de populations victimes de toute forme de violence que vous avez rencontrées partout où vous avez été après votre visite en RDC. Merci.
Il y a plusieurs aspects. Je dois, permettez-moi de le dire en tant que femme moi-même, que je suis très préoccupée par surtout les violences sexuelles de genre qui paraissent être tellement répandues. Il y a plusieurs axes sur lesquels il est important d'agir. Le premier, c'est vraiment de rechercher de la part des victimes l'assistance médicale nécessaire, mais aussi de porter plainte, parce qu'il est important de pouvoir agir le plus tôt possible avant que la possibilité d'avoir des preuves disparaisse. Plus au long terme, il est important aussi de donner un appui psychologique et aussi, et je voudrais souligner cet aspect-là qui est assez important, de donner un appui qui vise à la réinsertion socio-économique des victimes. Il s'agit donc d'avoir une stratégie cohérente et compréhensive qui puisse viser aux divers aspects de la vie d'une personne qui sont atteintes dans un cas pareil. Évidemment, il est important aussi, il est essentiel en effet, de faire justice. Ceux qui ont commis ces actes doivent être menés en face d'un système judiciaire qui puisse reconnaître les droits de ceux qui ont subi violence et réparer dans la mesure du possible à ces violences, à cette violation. Il s'agit là d'un problème assez épineux parce que on viole la personne et une réparation ne peut jamais retourner à la situation d'auparavant, mais il faut quand même tâcher de trouver les moyens pour réparer dans la mesure du possible à ce que vient de se passer.
Merci. Nous allons à Goma. Goma, est-ce que vous avez des questions?
Oui, merci. Touvé Oundé de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Madame, vous avez parlé des bombardements de Goma qui constituent une violation des conventions internationales. À ce jour, la République démocratique du Congo a lancé un mandat d'arrêt contre certains dirigeants du M23. Et ce mandat d'arrêt traîne d'être exécuté par les pays qui doivent l'exécuter. Quel sera votre rôle pour que l'impunité puisse commencer par l'arrestation, ou mieux la traduction à justice, de ceux-là qui ont commencé le mouvement, qui continuent à bombarder la ville de Goma?
Permettez-moi de dire deux choses. Premièrement, en ce qui concerne le bombardement, évidemment, sur la ville de Goma, ça doit s'arrêter immédiatement. C'est une violation grave du droit international humanitaire. Deuxièmement, en ce qui concerne les personnes qui sont sous mandat international, on travaille avec nos partenaires de la MONUSCO, nos partenaires dans le système des Nations Unies, Madame Robinson comme représentante spéciale pour la région des Grands Lacs, parce qu'il est important que toute personne qui a commis des actes qui représentent une violation des droits humains, du droit international humanitaire, soit menée en face de la justice.
Merci. Une deuxième question de Goma. Une minute.
Oui, je voudrais simplement dire que par rapport à la question qu'il a posée sur les mandats d'arrêt internationaux, je veux dire qu'il y a eu effectivement demande d'extradition présentée en bonne et due forme, mais comme l'a dit l'adjointe au haut commissaire des droits de l'homme, vous le savez, dans le cadre de l'accord cadre signé le 24 février 2013 à Addis Ababa, les différents signataires, l'ensemble des 11 pays se sont engagés formellement à ne pas accueillir, à ne pas donner l'asile à des personnes, à des criminels de guerre qui sont recherchés dans un ou deux autres pays. Entre autres, la RDC s'est fondée sur ces dispositions pour demander l'extradition. Et nous attendons, nous suivons, mais nous sommes activement saisis et, comme elle l'a dit, c'est au niveau régional, notamment le bureau de l'envoyé spécial, Mary Robinson, a été saisi, elle a été informée, donc elle suit. Alors, observons, attendons de voir les réactions des uns et des autres.
Voilà, merci. Nous repartons à Goma.
Oui, c'est Norbert Mwindulwa de la radio-télévision Graben. Vous venez, madame, de dresser un bilan
négatif par rapport à la situation des droits de l'homme dans cette partie orientale du pays. Ma question est de savoir, que comptez-vous faire concrètement, je dis bien concrètement, pour arrêter cette hémorragie-là?
On est engagé dans plusieurs volets en partenariat avec nos collègues de la MONUSCO. Ce qui nous préoccupe, c'est la protection des civils et de tous leurs droits. Le monitoring pour pouvoir documenter les violations qui ont lieu. Le soutien au système de la justice parce qu'il puisse agir envers ceux qui ont commis des violations, donc la nécessité d'avoir des investigations, des procès, etc. Les réparations et le renforcement aussi des autorités au niveau local, de même que le partenariat avec la société civile. Les problèmes à qui on fait face dans la région sont multiples, complexes, très sérieux. Et il est important qu'on travaille ensemble. Nous, la communauté internationale, on est ici pour donner un appui, pour renforcer la capacité de l'État de répondre à ces défis. Mais il est important aussi de se rappeler que dans un pays démocratique, le rôle de la société civile peut devenir un très fort renforcement de l'engagement étatique. Et je l'ai vu aussi dans ma visite sur les terrains où certaines activités de soutien, par exemple aux victimes de viols et des violences sexuelles, étaient menées par la société civile ou en coopération société civile, autorité de l'État. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble dans un esprit de coopération et inspiré par les valeurs qui nous partageons tous dans l'ONU de respect de la personne humaine.
Merci. Nous allons peut-être prendre une dernière question de Goma.
Vas-y, monsieur. Il y a un micro juste devant toi.
Bonjour Kinshasa, moi c'est Martin Sikuzote de la radio Comico FM. Je voulais m'adresser à madame. Dès que vous êtes arrivé ici à Goma, vous vous êtes rendu à Kichanga. Quelle est la situation actuelle à Kichanga à ce qui concerne les droits de l'homme? Parce que nous aussi ici à Goma, nous sommes frappés par la situation aussi des droits de l'homme. Pouvez-vous comparer la situation des droits de l'homme à Kichanga et celui de Goma? Je dis et je vous remercie.
Merci. Permettez-moi de parler un peu plus en général avant tout, parce qu'il est évident que la situation de développement en général à Goma est plus évoluée qu'à Kichanga. La préoccupation majeure, c'est en ce moment précis le fait qu'il y a eu une attaque de la part des éléments M23 sur la ville, sur les civils, c'est l'aspect qui nous préoccupe le plus. Pendant ma visite à Kichanga, j'ai vu les conséquences de la violence. J'ai vu une partie du pays, une communauté qui était un peu, je dirais, abandonnée à cause des difficultés d'accès qu'il y a eu dans le passé et qui a vraiment besoin de l'État pour que non seulement la justice, mais aussi les services sociaux, les services administratifs puissent être plus présents. C'est justement quand la présence de l'État est là qu'il est possible d'éviter un retour à une situation de vulnérabilité envers des groupes armés. J'ai noté la situation précaire au point de vue socio-économique. Et le fait que là, en particulier, les structures communautaires qui, dans les passés, pouvaient supplir jusqu'à un certain point au fait que les structures récatatives n'étaient pas là, étaient elles-mêmes fragilisées. Et donc, il est important qu'on puisse être présent avec les structures qui permettent d'appuyer la population et de leur permettre de vivre en paix. dans la sécurité et de se développer et de profiter des ressources que la zone offre, mais qu'on n'arrive pas à exploiter d'une façon soutenable et égalitaire à cause du conflit.
Merci madame, merci à vous chers collègues d'avoir pris de votre temps pour être avec nous. Merci à vous aussi madame la haut-commissaire adjointe. Merci à nos auditeurs de Radio Okapi qui nous ont suivis en direct. Nous vous donnons rendez-vous mercredi sur les mêmes fréquences. Merci beaucoup. Oui.
Je sais même pas.